Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Donc nous allons continuer notre examen de ce caractère de l'impartialité en considérant successivement deux questions. La première question de caractériser le type de généralité auquel renvoient ces institutions. Deuxièmement, de répondre à la question, l'impartialité peut-elle être considérée comme une politique ? Regardons d'abord le type de généralité auquel renvoie ce type d'institution. Essayons d'abord de les situer par rapport à ces deux modèles que constituent la balance et le bandeau. La justice est souvent représentée comme une déesse à la balance, au glaive et au bandeau. Le glaive symbolise la forme, la force de l'institution et renvoie à la dimension de souveraineté de laquelle elle participe, alors que la balance, de son côté, qui est l'élément le plus ancien de l'allégorie, traduit un idéal d'objectivité instrumentale. Avec la balance, l'impartialité de la justice est exprimée par le fait qu'elle prend également en compte toutes les données du différend et tous les arguments qui sont formulés. On peut dire donc que c'est un modèle de l'impartialité par équilibre des parties. Ces différentes parties sont ramenées dans la pesée à une commune mesure, à une même considération, alors même que tout peut les différencier en richesse, en pouvoir, en savoir, dans la réalité. Et le juge, dans ce cas, doit être fort actif. Il doit s'impliquer pour produire les conditions de l'appréciation équitable. Et il doit mettre autant d'attention, de temps passé à l'investigation, à l'écoute, de considération des arguments pour chacune des parties en présence. L'allégorie du bandeau est plus récente. Même si on en trouve la trace dans des textes de Plutarque ou dans des textes de Diodore de Sicile concernant les juges de l'ancienne Égypte, qui étaient souvent représentés aveugles ou privés de main pour suggérer qu'ils étaient capables de résister aux séductions des apparences, mais le bandeau tel que nous le concevons dans les allégories de la justice contemporaine est d'invention beaucoup plus récente, puisqu'il n'apparaît qu'au début du XVIe siècle. Il traduit l'effort de dépersonnalisation et d'abstraction qui doit sous-tendre l'action du juge. Par là, on a voulu signifier qu'il ne doit pas prendre en compte la personnalité de tel ou tel individu, mais appréhender abstraitement les termes du rapport sous l'aspect universel. C'est le modèle d'une impartialité par détachement. Elle vise à mettre à distance les affects et les a priori pour considérer in abstracto les individus et les faits. Dans son commentaire que je viens de citer tout à l'heure de la critique de la faculté de juger, Hannah Arendt a bien souligné l'importance de cette opération mentale pour satisfaire à ce qu'elle appelle la condition de satisfaction des intéressés. En fermant les yeux, écrit-elle, on devient spectateur impartial, non directement affecté du visible. Et aussi, en transformant ce que se percevaient les sens extérieurs, en les constituant en un objet pour les sens intérieurs, on comprime et on condense la multiplicité des données sensibles, on devient ainsi en situation de voir avec les yeux de l'esprit, c'est-à-dire de voir le tout qui donne sens aux choses particulières. L'impartialité est liée là à une conversion, à une simplification des sens. Elle est mise à l'écart des bruits du monde, soustraction au règne de l'opinion, considération en raison des choses. Les deux modèles de l'impartialité que représentent la balance et le bandeau ont en commun de dessiner les contours d'une généralité négative. Celle-ci se distingue de la généralité comme grandeur sociale, puissance agrégée. Le type de généralité que construit l'impartialité est d'une autre nature. C'est une généralité négative constituée par le fait que personne ne peut bénéficier d'un avantage ou d'un privilège. Dans un monde divisé, où le projet d'une généralité que j'appellerais positive, agrégative, ne fait plus sens avec évidence, la définition de l'intérêt général restant toujours ouverte, du bien, dirait un philosophe comme Rawls, restant toujours soumise à controverse, l'attachement à une forme de généralité procédurale négative se renforce mécaniquement. On devient de plus en plus attentif à ce que la société soit gouvernée par des principes et des procédures fondées sur le projet d'une destruction permanente des avantages particuliers, qui ne privilégie personne et empêche les accaparements partisans. Dans le domaine strictement économique, c'est ce à quoi vise le principe de concurrence, présenté comme un moyen de lutter contre les coalitions, les monopoles, les rentes et les asymétries d'information, avec tous les débats qu'il y a sur l'institution du marché et la théorie de l'information. Les autorités de régulation sont, de leur côté, les institutions qui peuvent être considérées comme adaptées à la poursuite de ces objectifs. Partout ailleurs, la généralité procédurale négative se décline aussi comme l'aspiration à un traitement identique de chacun, fondé sur le refus des discriminations autant que des traitements de faveur. Et on sait l'importance croissante que revêt cette dimension dans les sociétés contemporaines. Celles-ci sont en effet saturées de particularités et de plus en plus divisées à des titres divers. C'est ce qui explique aussi la forte demande d'impartialité et la place toujours plus grande des institutions qu'occupent les institutions de la généralité négative. Le projet démocratique renvoie dans ce cas à l'idée de ce que le pouvoir doit aussi désigner un lieu vide. Claude Lefort a forgé cette expression suggestive de lieu vide, c'est lui qui conclura le séminaire qui commencera à partir de la mi-mars, pour souligner que la démocratie ne peut pas simplement être définie comme le régime fondé sur l'idée que le pouvoir est inappropriable. Pouvoir appropriable, c'est-à-dire c'est le cas du pouvoir seigneurial, par exemple, qui est conçu comme un dominium, ou le pouvoir ecclésiastique, quand il est défini comme un ministerium. Dans les deux cas, le pouvoir est effectivement approprié par une personne ou par une institution. Mais souligne Lefort, il faut aller plus loin que cette simple définition de dire que le pouvoir est inappropriable et qu'il doit résulter d'une libre obligation. Il y a en effet deux façons d'effectuer ce que j'ai moi-même appelé autrefois une nécessaire dépropriation. La première consiste à dire que le pouvoir ne peut être que celui de la communauté tout entière des citoyens, qu'il est la propriété indivise d'un sujet social appelé le peuple ou la nation. Mais le problème, nous l'avons vu, est que ce sujet reste toujours virtuel, qu'il n'est jamais substantiellement un, qu'il est toujours traversé par la divergence des intérêts et des opinions. D'où l'impossibilité d'en rester une telle approche, que l'on pourrait dire positive, de l'appropriation collective du pouvoir. Si elle reste pratiquement incontournable, son incomplétude, qui est exprimée par sa réduction au principe majoritaire, dans un univers où le suffrage est structurellement dépendant de la manifestation des antagonismes politiques, cette incomplétude doit donc être continuellement rappelée. Et l'expression de la socialisation du pouvoir sous une forme négative constitue donc la correction nécessaire à son impossible accomplissement positif. C'est à quoi correspond la notion de pouvoir démocratique comme désignation d'un lieu vide. Une telle façon de comprendre le pouvoir négatif a une longue histoire. Il n'est par exemple pas inintéressant de rappeler que le procédé de tirage au sort avait originellement été appréhendé dans cette perspective. Et dans certaines communes italiennes du Moyen-Âge, les signaliers, quand il y avait des divisions jugées insurmontables, on recourait au tirage au sort, et le tirage au sort s'opérait significativement dans un bâtiment vide, au centre d'une place qui avait été vidée de tous ses habitants, comme si seule une généralité totalement négative pouvait se substituer à l'impossible accord positif du vote. Comment donner consistance à une généralité négative de cette sorte ? Trois conceptions de la conception et de la composition des autorités indépendantes peuvent être distinguées à ce propos. La première, la plus évidente et la plus répandue, est celle qu'on pourrait qualifier de purement personnalisée. Le groupe est alors constitué par une addition de sélection obéissant à des critères tenant strictement aux compétences ou aux diverses qualités des individus. Ceux-ci sont ainsi choisis pour leur aptitude à la généralité ou pour leur réputation d'indépendance. De tels individus généraux sont de la sorte censés contribuer en eux-mêmes à la réalisation des objectifs de l'autorité concernée. Un deuxième modèle est celui de l'organisation pluripartisane. Il prend acte, ce modèle, de l'existence d'affiliations politiques, mais il vise à en contenir les effets par l'organisation d'un pluralisme raisonné. C'est aux États-Unis qu'il a été le plus développé. Aux États-Unis, ou dans la plupart des États, il est proposé aux électeurs de déclarer leur affiliation partisane. Donc la notion d'affiliation partisane aux États-Unis n'a pas du tout le même sens qu'en France. On peut dire que 80% des Américains sont partisans, il n'y a que 20% qui se déclarent indépendants. Et il est demandé, notamment à cause de l'organisation des primaires, par exemple, de déclarer son affiliation partisane. Donc être membre d'un parti, je dirais, n'a pas du tout le même sens aux États-Unis qu'en France. Et donc c'est ce qui fait que les textes prévoient, dans nombreux cas organisant les autorités indépendantes, que les personnes adhérant à un même parti ne peuvent pas constituer plus d'un certain pourcentage du Conseil. Comme généralement le système américain est bipartisan, on dit qu'ils ne peuvent pas avoir plus de la majorité simple. Et la procédure française qui consiste à faire nommer les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel par trois personnalités politiques, président de la République, de la Chambre des députés et du Sénat, participe au fond d'un esprit voisin. La volonté de donner une dimension représentative à la composition de l'institution est enfin une troisième façon de concevoir les choses. Il est ainsi frappant que les textes prévoient que siègent escalités dans ces instances certains responsables publics ou que des institutions y délèguent un ou plusieurs de leurs membres. Mais cette dimension a parfois même été fortement développée. Le cas américain du Federal Reserve Board est particulièrement intéressant à cet égard. Alors que certains réclamaient qu'il soit l'équivalent de la Cour suprême dans l'ordre économique ou monétaire, sous-entendant de la sorte qu'il devrait être largement composé de spécialistes au nom de leurs compétences, autant que de leur intérêt primordial dans ces matières, des voix contraires souhaitaient que siègent des sages plus désintéressés. Mais en même temps, les États, ainsi que des professions particulières, celles des agriculteurs tout particulièrement, considéraient que l'institution ne pourrait remplir sa mission d'intérêt général que si leurs problèmes étaient directement pris en compte. Il fut ainsi envisagé très sérieusement de faire siéger un exploitant agricole escalité au Conseil de la Banque fédérale. Et des membres de la Chambre des représentants plaidèrent pour que le monde du travail soit aussi présent. Aucune de ces dispositions particulières ne fut finalement adoptée par les chambres. Mais un important amendement au Federal Reserve Act, qui est un acte d'une loi de 1913, amendement voté en 1922, indiquait « En sélectionnant les 6 membres nommés du Federal Reserve Board, à côté donc des membres ex-officio, le président doit être attentif à ce que soit assurée une juste représentation des intérêts financiers, agricoles, industriels et commerciaux, autant que des divisions géographiques du pays. » Donc, il y a une dimension ouvertement représentative. Et à un moment discuté, le projet de donner une composition de type paritaire au National Labor Relations Board, le NLRB, fut en revanche, elle, franchement repoussée. Voir sur ce point les mémoires très intéressantes de William Goldsforth. Aucun de ces modèles ne s'est totalement imposé pour définir ce que serait un bon système de sélection pour composer les autorités indépendantes. Ce sont même souvent des formules hybrides qui ont été retenues. se mêle ainsi pratiquement dans le choix des individus, même lorsque celui-ci n'est soumis à aucun impératif contraignant ses différentes modalités. De même qu'il n'y a pas de représentation parfaite pensable dans l'ordre électoral représentatif, il n'y a pas un modèle de composition d'une institution de la généralité négative. Et se mêle toujours de façon indissociable en la matière la qualité personnelle des individus et des variables plus institutionnelles et plus sociologiques. Mais faire exister un pouvoir comme lieu vide n'est possible que s'il y a une attention de tous les jours, attention qui ne peut pas être inscrite dans le marbre des textes. Considérons maintenant cette question fondamentale. L'impartialité peut-elle être une politique ? Le glissement d'une généralité positive à une généralité négative traduit-il une tendance au recul de l'idéal républicain démocratique, restant lié à l'idée de volonté générale, alors que progresse la place du droit, qui correspond à l'érection de fait de l'individu en figure sociale centrale? C'est dans ces termes que la question est souvent posée et que les positions s'affrontent concernant cette question des autorités indépendantes. Il est essentiel de l'examiner attentivement. La démocratie d'impartialité, faut-il souligner d'emblée, ne peut pas être réduite à une simple composante de l'état de droit, même si elle participe comme lui d'un refus de lier sous les espèces d'une puissance sociale unique le pouvoir, la loi et le savoir. L'état de droit, tel qu'il est compris de façon dominante, en conformité avec la vision libérale, en effet pour fonction première d'imposer des limites au champ politique, d'être un frein. On peut dire que dans ce cadre, le droit et la démocratie inscrivent leur rapport dans un jeu à somme nulle. Plus de droit veut dire moins de démocratie d'une certaine façon et réciproquement. Mais les choses ne se présentent pas dans les mêmes termes avec la démocratie d'impartialité. Il s'agit en effet d'une impartialité active, alors que l'état de droit est un état passif de droit. Et Hannah Arendt a tort, à mon sens, de rapprocher l'impartialité de la situation d'un spectateur actif et de considérer que l'acteur est par définition partial. Même le juge aux yeux bandés doit en effet être considéré comme un acteur. Il participe à la vie de la cité. C'est une instance que l'on peut saisir, qui écoute les doléances. Il contribue à réinstituer, en en corrigeant les conditions et les équilibres, le face-à-face social. Son impartialité est active, réparatrice, et son intervention participe de cette façon à la construction d'une communauté politique. Le bandeau de la justice n'est pas pour cette raison un équivalent du voile d'ignorance chez Rawls, même si le rapprochement s'impose à l'esprit par la proximité des images qui sont suggérées. Il est important de souligner la différence. Dans sa définition la plus stricte, le voile d'ignorance définit une situation dans laquelle se trouvent des individus qui cherchent à déterminer ensemble des règles de justice. Le but est de trouver de cette façon une condition permettant la fixation de principes admissibles à l'unanimité. Entendu en ce sens, le voile d'ignorance reformule, pour tenter de la résoudre plus sûrement, la question du contrat social, et en substituant un contractualisme de la raison au contractualisme rousseauiste de la volonté, Rawls contourne la difficulté de déterminer des institutions acceptées par tous en proposant, de façon plus limitée, d'énoncer des principes de justice acceptables par tous. Et la forme d'impartialité qui est à l'œuvre pour arriver à ce résultat réside dans la situation de neutralité que traduit la notion de voile d'ignorance appliquée à la situation originelle. Il ne s'agit donc pas, dans ce cas, d'une impartialité active. Pour faire coïncider la notion de voile d'ignorance avec l'impartialité active de la justice aux yeux bandés, il faudrait appréhender le premier d'une autre façon, le considérer comme une procédure pour détruire en permanence les sources de la partialité qu'il y a en chacun, de l'inscrire donc dans une histoire active. Il devrait donc être considéré dans ce cas comme le simple support d'une éthique de la suspicion. C'est seulement de cette façon que les deux notions pourraient se superposer. dans la perspective donc de ce qu'il conviendrait de considérer comme une définition faible du voile d'ignorance. Car sinon, le juge, il est bien un tiers qui intervient dans un monde de passions et de conflits, un monde saturé de particularités, pourrait-on dire. Il doit trancher alors que chacune des parties en présence va au bout de l'expression de ses intérêts propres. Il est situé dans une humanité du face-à-face corrosif, à milieu donc de l'introspection rationnelle de l'individu sous voile d'ignorance. Je pourrais signaler là que le premier à avoir parlé de spectateur impartial dans une formulation célèbre de la théorie des sentiments moraux, c'est bien sûr Adam Smith. Mais le spectateur impartial que Smith évoque est très éloigné du spectateur impartial qu'évoquait Hannah Arendt. Car ce spectateur n'a pour Smith rien de passif. Son attitude est liée à une assaise intérieure permanente et à un effort d'objectivation qui ne se sépare pas d'une présence curieuse au monde. L'impartialité du juge ou des commissaires d'une autorité indépendante présente ainsi un caractère qui n'a rien de passivement libéral. Mais il faut aller même au-delà de ce constat, prendre en compte le fait qu'il y a dans le monde contemporain une demande sociale d'impartialité forte, encore plus exigeante. L'attente est de voir advenir une société d'impartialité, c'est-à-dire une société dans laquelle l'avenir des individus ne soit pas préjugé par leur passé. L'impartialité attendue est dans ce cas refus des positions fermées, effort pour surmonter les handicaps, façon de donner consistance au projet d'une égalité permanente des possibles. Elle acquiert donc une signification immédiatement politique et démocratique. L'individu est appréhendé dans ce cadre comme une personne histoire dont la liberté consiste dans un travail permanent de maintien d'un avenir ouvert. Cette définition est beaucoup plus exigeante que celle de non-subordination simple, qui est celle du point de vue libéral classique. Et elle est aussi plus forte que celle de la liberté définie par Philippe Petit comme non-domination. Il s'agit en effet dans les deux cas d'une liberté conçue comme un statut, un état, alors qu'il s'agit là, dans la société d'impartialité, de la penser comme une promesse ouverte, comme une histoire, c'est-à-dire de définir la liberté comme le droit permanent et sans cesse renouvelé à la liberté. Cette approche proprement démocratique de l'impartialité a ainsi un contenu directement démocratique car il donne sens et forme à la vieille notion de société démocratique. Lorsque Tocqueville distinguait la démocratie comme régime, la souveraineté du peuple, et la démocratie comme société, le règne de l'égalité des conditions, il entendait par là mettre l'accent sur l'aspiration à l'avènement, selon sa formule, d'une société de semblables. Il s'agissait, par cette formule, de souligner que le nouveau monde démocratique rompait radicalement avec l'ancienne société d'ordre et de corps, introduisant, selon sa formule, une égalité imaginaire malgré l'existence des différences économiques et sociales. Au-delà de la simple égalité des droits, l'institution du suffrage universel a symbolisé l'avènement de cette société des semblables. Il est sacrement de l'égalité sociale. Mais le travail de cette égalité imaginaire va ensuite entraîner ce que Tocqueville n'avait que très imparfaitement pressenti, la recherche d'une expression économique réelle de cette similarité démocratique. Et c'est le rôle qui sera assigné à l'État-providence. Instaurer une dignité minimale des conditions qui donne une forme sensible et tangible au fait de la concitoyenneté. La notion de société des semblables connaîtra ensuite un nouveau développement dans les années 1960 avec l'idée d'égalité des chances, puis plus récemment celle d'égalité des possibles. L'égalité des conditions renvoie ainsi maintenant à l'idée de ne pas être enfermé dans un destin, à la possibilité de changer de conditions. Se profile ainsi l'horizon de ce qui pourrait être décrit comme une société d'impartialité radicale. Sa mise en œuvre implique au premier chef la réparation et la sanction des discriminations, la prise en charge et la compensation des handicaps, d'où la centralité croissante de ces deux notions de handicap et de discrimination dans l'imaginaire démocratique. Mais elle consiste aussi, de façon plus ambitieuse, à définir et à redéfinir le sens même de l'action sociale comme un équipement pour l'avenir des individus, bouleversant du même coup les catégories sous-tendant les notions d'État-providence et de service public. Et une nouvelle génération d'institutions impartiales vont inévitablement émerger dans cette perspective en matière sociale. Elle sera à la fois les vigiles et les instruments de réalisation de la nouvelle aspiration à une société d'impartialité radicale. La catégorie d'impartialité s'est donc considérablement élargie. Elle ne règne plus simplement dans l'ordre judiciaire et elle s'est imposée dans l'ordre politique et dans l'ordre social. Elle est la clé d'une nouvelle pensée du social et s'inscrit dans un souci du monde, dans une volonté de le transformer. Et il est bien possible, dans cette perspective élargie, de parler de l'impartialité comme véritable politique. Mais parler de l'impartialité comme véritable politique, c'est voir aussi ce que sont, je dirais, les figures impolitiques de l'impartialité, les bords de l'impartialité. Cette impartialité active ne peut être pleinement pensée que si elle est clairement distinguée des visions qui en suggèrent un trop simple exercice. Il y a là trois figures de l'impartialité qui me semblent constituer un retournement de l'impartialité. Une impartialité qui cesse d'être démocratique pour devenir une impartialité de surplomb. Ces trois figures sont celles du juge-dieu, du prince étranger et de la main invisible. Le juge-dieu, tout d'abord, il incarne parfaitement l'idée d'une impartialité de surplomb. Et Benveniste, dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, a bien marqué que l'expression de thémis est d'origine divine et qu'elle désigne le droit comme un ensemble de principes ou de codes inspirés par les dieux et d'arrêts qui, eux, sont rendus par les oracles. Et c'est ce qui s'impose à la communauté et donc ce qui inspire en sa conscience immédiate le juge. Avant d'être la simple bouche de la loi que les Lumières appelaient de leur vœu, le juge a ainsi de façon immémoriale participé de l'accomplissement d'un office jugé divin. La justice de Dieu et la justice des hommes étant établies sous son autorité comme rigoureusement inséparables. Et dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles, les plus grandes figures de la magistrature et de la pensée juridique n'ont cessé de le rappeler à leurs contemporains, mettant cette coïncidence au centre de l'idéologie judiciaire de leur temps. Si on prend le cas de Jean Domas, cet ami de Pascal, qui est un des plus grands magistrats jansénistes de la période, dans son grand œuvre, Les lois civiles dans leur ordre naturel, ainsi que dans le second œuvre, Le droit public, et dans un certain nombre de mercuriales, il est un de ceux qui a développé cette approche. Je le cite en disant « Ce n'est pas assez pour marquer la grandeur du ministère des juges que de dire qu'ils sont des dieux. Nous pouvons dire encore que ce nom leur est donné par un privilège si singulier qu'il n'a été donné à aucune autre dignité. De sorte que cette singularité, jointe à la grandeur de ce titre, marque clairement que la divine égalité se communique davantage dans la qualité de juge que dans aucun autre, sous-entendu que dans l'office royal lui-même. Et donc, le prêtre même est pour Domas inférieur au juge. Le prêtre est le roi. Être juge, c'est être Dieu, résumé un autre jurisconsulte de cette période. Juge de la terre, vous êtes des dieux et les enfants du Très-Haut. C'est la formule que répétera à plusieurs reprises D'Aguesseau, lui aussi un des grands magistrats de la période. Ces orgueilleuses définitions ne reflètent pas simplement la haute opinion, certaine, qu'un grand corps pouvait avoir de lui-même. Elles ont en effet d'abord une portée théologique qui renvoie à la définition même de l'impartialité comme qualité principalement céleste. Je ne le développe pas comme ce qu'a très bien expliqué Cogès dans son esquisse d'une phénoménologie du droit. L'impartialité, montre-t-il, ça n'est pas simplement être à distance. L'impartialité, c'est d'être dans une situation où les éléments que l'on prend en compte ne sont pas en situation de vous modifier vous-même. Donc, seul Dieu est dans une situation où les éléments qu'il traite ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur lui. alors que dans la réalité, très souvent, le juge, même si il n'est pas concerné directement, il est un intervenant dans la société, les conflits de la société. Donc, la seule vraie définition du juge, c'est cette qualité qui tient non pas simplement à la distance, dit Kojève, mais au fait de l'impossibilité d'une rétroaction d'une décision sur soi-même. Première figure, donc, de l'impartialité utopique, cette impartialité du juge-Dieu, qui signifie que l'autorité impartiale, elle doit s'élever dans une position de surplomb pour remplir sa tâche. Tout aussi problématique est, deuxième cas de figure, l'impartialité de distanciation. Elle finit en effet par ne penser le bon pouvoir que sous les espèces d'une extériorité radicale. Cette vision des choses, là encore, a une longue histoire, tant dans l'ordre judiciaire que politique. Dans ses commentaires sur les lois anglaises, Blackstone fait un éloge très intéressant des juges d'assises itinérants en Angleterre, en soulignant que leur qualité principale, c'est d'être des étrangers dans le pays, car c'est cette qualité d'étranger qui empêche qu'ils se forment des briques, des partis, note-t-il, qui auraient lieu si le juge était local. Et cette caractérisation spéciale de l'impartialité comme liée à l'étrangeté n'a pas simplement été appréhendée comme une garantie appliquée à l'organisation judiciaire. De façon plus radicale, c'est la condition d'étranger qui a pu être considérée comme la condition d'une capacité à gouverner au sens du bien commun. Et si l'on regarde l'histoire des couronnes européennes, on voit que dans de très nombreux cas, et l'Angleterre est encore, c'est tout de même des Allemands qui sont à la tête de l'Angleterre actuellement, que ce sont très souvent des monarques étrangers qui ont été appelés justement pour sortir le pays d'une division. Et cette histoire est très longue, puisque dans l'Antiquité, dans des cités grecques, on a de nombreux exemples d'appels à des étrangers dans des moments de guerre civile, pour sortir, enfin des étrangers à la cité, pour sortir la cité de ses difficultés. Et puis on a l'exemple aussi très célèbre des podestas dans les communes italiennes. C'est lorsqu'il est apparu que les conseils communaux ne pouvaient pas mener leurs tâches à bien, minés qu'ils étaient par les factions entre les familles, les clans, les intérêts, et bien que l'on a fait appel à ces gouvernants professionnels qu'on a appelés les podestas, qui étaient élus par les conseils, mais chargés de venir avec toutes leurs administrations, leurs trésoriers, leurs juges, leurs notaires, pour constituer un pouvoir venant de l'extérieur de la cité et pouvoir la gérer dans la paix, parce que présupposant le fait qu'il n'y avait pas part. Il faut d'ailleurs souligner que ces podestas avaient leur mode de vie et avaient leur organisation gouvernée par tout un ensemble de prescriptions qui étaient fort détaillées pour garantir leur impartialité. D'abord, on ne les payait que 6 mois après qu'ils aient terminé leur mandat. Donc, pour éviter qu'ils partent, non pas qu'ils partent avec la caisse, mais même pour éviter qu'ils puissent... qu'on n'ait pas pris conscience de malversations qu'ils auraient pu faire. Et surtout, dans les contrats qui étaient passés entre les conseils et les podestats, il y avait tout un ensemble de dispositions pratiques très intéressantes. Par exemple, il leur était interdit, dans bien des cas, de demeurer dans la cité avec leurs femmes, leurs enfants et même leurs neveux, pour ne pas créer de possibilité d'attachement. Il aurait été interdit, quand ils étaient célibataires, par contrat, d'épouser ou de fréquenter une femme de la ville. Il était interdit même de quitter, même pour des promenades, de quitter le territoire de la ville sans autorisation. Il était même interdit, dans un certain nombre de villes, de manger ou de boire avec des habitants. Il était interdit, dans de nombreuses villes aussi, de recevoir des visiteurs après le coucher du soleil. Sous-entendu qu'un visiteur après le coucher du soleil, ça peut être pour un conciliabule un peu suspect. Et il est même frappant de voir qu'à Sienne, on a pendant longtemps obligé le podestat à habiter successivement les différents quartiers de la ville, pour qu'il n'en privilégie aucun. Donc on a tout un ensemble de précautions qui étaient prises pour assurer, en quelque sorte, une matérialité à l'exigence d'impartialité. Mais la multiplication de ces précautions s'avéra en fait insuffisante dans le cas italien, parce qu'il était impossible de prévoir toutes les situations dont pouvaient dériver des difficultés. Et on finit ainsi par se rendre compte qu'il n'y avait pas d'impartialité qui pourrait être garantie par l'équivalent d'un statut. On peut le comprendre, aucun pouvoir ne peut être réduit à une pure institution, absolument extérieure aux passions et aux intérêts de la cité. L'impartialité, c'est toujours, rappelons-le, une qualité précaire qu'il faut mettre à l'épreuve en permanence. Gouverner reste toujours un exercice situé qui impose de prendre parti dans les conflits. L'impartialité ne peut, en ce sens, se substituer à la politique. Et c'était le grand problème des podestats. Ils ont pu être des grands administrateurs, mais jamais ils n'ont pu conduire ce qui est l'essentiel de la politique pour réduire les conflits et les tensions qui minaient les cités concernées. Une troisième forme d'impartialité utopique est celle de la dépersonnalisation radicale du gouvernement des hommes, dont le mécanisme de la main invisible constitue l'illustration canonique. Cette notion de main invisible, qui s'est imposée dans le langage courant maintenant pour désigner l'équilibre de marché, a d'abord eu un sens théologique. Elle désignait tout simplement la main de Dieu. Tout d'ailleurs, le fait que très tôt, on ait eu des expressions qui assimilaient le marché au Dieu caché. Elle désignait cette main visible la main de Dieu ou celle des puissances obscures. C'est ainsi, dans une pièce de Shakespeare, Macbeth, que l'on voit, pour la première fois, semble-t-il, l'expression « la main invisible » dans un texte qu'a lu Adam Smith, probablement. C'est au moment où Macbeth apostrophe la nuit pour lui demander de couvrir le crime qu'il s'apprête à commettre, et il le dit « come with thy bloody and invisible hand ». Viens avec ta main sanglante et invisible. C'est les puissances de la nuit. Et Voltaire a aussi utilisé l'expression dans un texte dont on sait qu'il a été lu par Adam Smith. Adam Smith, en fait, n'est pas le père de la notion de main invisible telle que nous la concevons aujourd'hui. Il n'a employé l'expression que trois fois dans son œuvre. Une fois dans son traité d'astronomie, en 1750, qui n'a pas été publié de son vivant, et dans lequel il parle de la main invisible de Jupiter. Donc là, c'est vraiment la main invisible, c'est vraiment le dieu caché. La deuxième occurrence du terme de main invisible chez lui, c'est dans la première édition de la théorie des sentiments moraux, et il l'emploie dans un sens sarcastique. Ce n'est pas du tout pour décrire un mécanisme économique. C'est pour parler des riches et des propriétaires désagréables, de ces hommes vraiment désagréables qui sont remplis d'égoïsme, etc. Et dit-il, ben, malgré tout, dans certains cas, ils peuvent tout de même, il arrive qu'ils contribuent au bien commun par l'effet d'une sorte de main invisible. Mais à ce moment-là, ça ne désigne pas du tout le marché. C'est presque le hasard, si je puis dire. Et la troisième occurrence du terme de main invisible chez Smith est dans la richesse des nations, dans le chapitre sur le commerce extérieur, où il parle des monopoles qui sont plus ou moins avantageux pour certaines industries. Et là aussi, il dit qu'un marchand qui préférerait supporter une politique locale pour son intérêt propre peut, dans certains cas, par une sorte de hasard, une main invisible, promouvoir quelque chose qui était inattendu. Donc la main invisible dans la richesse des nations, la seule occurrence, signifie un effet non attendu. Et c'est avec ces lectures en tête qu'Adam Smith a employé ces mots-là, et non pas du tout en pensant au marché. Et en fait, c'est presque un usage plus ironique qu'un usage économique. Ce n'est en fait qu'un siècle plus tard, avec le développement des théories de l'équilibre général, et notamment l'œuvre de Karl Menger, que la notion de main invisible va trouver sa place dans l'économie et prendre la centralité que lui connaissons aujourd'hui. Et elle ne trouvera même, pourrait-on dire, son sens accompli que dans l'œuvre plus contemporaine de Hayek. la vision hayekienne de l'économie diffère en effet profondément de celle d'Adam Smith. Alors que ce dernier comprend l'échange économique dans le cadre d'une morale et d'une psychologie. On ne peut pas lire La richesse des nations si on n'a pas compris en profondeur la théorie des sentiments moraux. Hayek conçoit au contraire l'échange économique à partir d'une théorie de l'information. Le marché, écrit-il, est la seule procédure jusqu'ici découverte dans laquelle l'information infiniment éparse parmi des millions d'hommes puisse être effectivement utilisée pour l'avantage de tous. Et c'est sur cette base qu'il critique symétriquement l'intervention de l'État, l'État étant à ses yeux dans l'impossibilité de connaître tous les faits particuliers sur lesquels est fondé l'ordre global des activités dans une grande société. Et cette saisie cognitiviste du système de marché s'inscrit pour lui dans une appréhension cohérente, génétique, de son établissement. Le marché, en effet, n'est pas une invention surgie du cerveau des économistes. Il résulte d'un processus adaptatif et cumulatif de l'expérience humaine. Et le jeu de la concurrence par le marché doit donc être compris comme une procédure d'exploration. Et c'est la partie de l'œuvre de Hayek, je dirais, qui est devenue un bien commun de l'économie. Et cette approche, il faut le souligner, fait qu'Hayek est beaucoup plus proche de Burke que d'Adam Smith. À qui, en effet, Hayek a emprunté cette théorie de l'exploration? C'est à Burke. C'est toute la théorie de la tradition de Burke qui a été replacée dans un cadre économique. L'ordre de marché est en conséquence, pour Hayek, le seul à instituer un véritable gouvernement de la généralité. Et le pouvoir politique est en revanche condamné à rester toujours partial, incapable qu'il est de saisir, comme le fait le marché, l'ensemble des variables constituant l'interaction sociale. L'État reste donc structurellement englué dans le monde étroit de la particularité. Son intervention, nécessairement perturbatrice, ne pouvant en conséquence que le conduire, quelles que soient ses bonnes intentions, à créer des rentes ou des privilèges, pour certains au détriment des intérêts de tous, pour une raison informationnelle. Le marché est ainsi pour Hayek l'ordre invisible, car à vrai dire il ne s'agit plus de main chez lui, expression encore trop liée à l'idée d'un sujet ou d'une volonté. Le marché est l'ordre invisible qui délégitime les prétentions d'un pouvoir humain à s'installer au poste de commandement de ce qui serait la société. La société, bien sûr, n'existant pas pour Hayek. Il dit que la société n'est pas une personne qui agit, c'est une structure ordonnée des activités qui résulte de l'observation par ses membres de règles abstraites. Le grand mérite de l'ordre de marché, conclut Hayek dans ce raisonnement, a été d'enlever à quiconque tout pouvoir dont l'usage est par nature arbitraire. La vérité est que le marché a réalisé la plus massive de réduction de pouvoir arbitraire jamais accomplie dans l'histoire. S'esquisse sur cette base le projet d'une dépolitisation radicale du monde. Nous en verrons aussi les effets dans sa vision du constitutionnalisme plus tard. Est évacuée l'idée même d'un face-à-face entre les hommes, en même temps que celle d'une confrontation critique avec un gouvernement. Dans l'univers de ce que j'ai appelé le capitalisme utopique, il n'y a plus de pouvoir collectif dont l'écart à la société pourrait être publiquement discuté. Il n'y a plus de sauveur suprême, mais il n'y a plus également de responsable auquel on pourrait demander des comptes. Hayek insiste sur le premier mouvement, il n'y a plus de sauveur suprême, mais il oublie de dire qu'il n'y a plus de responsable auquel on pourrait demander des comptes. Et que le règne de l'impartialité, dont rêve Hayek, est pour cela indissociable de la diffusion d'un message implicite de résignation. Il y a donc un abîme entre le pouvoir de personne, tel que le définit Hayek, et la tension créatrice qu'impliquait l'idée d'un lieu vide chez un Claude Lefort. À distance de ces trois utopies, d'une impartialité conçue dans des termes qui écrasent les hommes et qui dénient toute légitimité à l'ordre politique, ainsi qu'au conflit qu'il constitue, nous avons déjà montré qu'une impartialité active pouvait participer de la mise en forme du monde démocratique. C'était de la sorte suggérée qu'il y a deux registres distincts et complémentaires dans la vie démocratique. D'un côté, l'expression des conflits dessinant le champ de la politique partisane, de l'autre, le travail des autorités indépendantes prolongeant, en l'élargissant fortement, la figure traditionnelle de l'état de droit. Mais il y a aussi une autre forme d'impartialité ayant une dimension directement politique. Je propose de l'appeler l'impartialité constituante. Cette dénomination, inspirée de la distinction classique entre politique constituante et politique constituée, vise à spécifier cette dénomination d'impartialité constituante vise à spécifier la finalité d'institutions indépendantes ayant une dimension d'infrastructure de la vie sociale. Leur indépendance est donc là fondée sur la détermination d'un champ de la vie commune que l'on juge devoir être distingué de la sphère politique partisane. L'exemple plus ancien d'institutions de ce type est celui des autorités monétaires. L'idée de distinguer entre fonctions exécutives pour les confier à des organismes spécifiques était formulée dans cet esprit dès la période révolutionnaire en France. Condorcet, appelé ainsi en 1790, a donné un statut spécifique à la gestion du trésor public en le séparant du reste de l'administration. Il est dangereux de confier au pouvoir exécutif la garde du trésor public, estimait-il. Les raisons de cette prévention, elles tenaient pour le philosophe au fait que les gouvernants risquaient d'être motivés par des considérations de court terme et donc de sacrifier l'avenir au présent. Leurs décisions pouvaient aussi être biaisées par des considérations partisanes ou personnelles. Même si elles étaient pleinement légitimes, il était ainsi raisonnable de limiter leur champ d'action dans un domaine constitutif du contrat social. Il peut être utile de confier à plusieurs corps séparés l'exercice de diverses parties d'un même pouvoir, concluait Condorcet, en invitant ses contemporains à ne pas en rester à une appréhension étroite de la division fonctionnelle des trois pouvoirs. Dans ce texte, comme dans d'autres que je ne peux pas citer, il a ainsi été le premier à proposer une certaine forme de constitutionnalisme économique, selon la formule contemporaine. La question de l'indépendance des banques centrales a ensuite été le terrain principal sur lequel se sont déplacées ces interrogations pionnières. Et cette question n'a cessé de prendre de l'importance, entraînant dans la période récente une véritable révolution. Entre 1990 et 1995, donc dans un laps de temps de 5 années seulement, il y a ainsi eu plus de 30 pays qui ont adopté le principe de l'indépendance de la Banque centrale, notamment un très grand nombre de pays nouvellement démocratiques. Et les débats ont en même temps, on le voit tous les jours, pris de l'ampleur. On le voit bien en Europe avec tous les débats sur la Banque européenne. Et c'est aussi bien sûr le cas aux États-Unis où la Banque fédérale est fréquemment critiquée comme étant undémocratique. Et dans bien d'autres pays, évidemment. Mais c'est peut-être l'exemple du cas allemand qui est particulièrement intéressant pour construire cette catégorie d'impartialité constituante. La décision allemande, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de donner à la banque du pays une rigoureuse autonomie constitue un cas exemplaire d'institution dont le caractère de service public était déterminé par la soustraction à tout contrôle du pouvoir exécutif. Et on ne peut pas comprendre cette décision prise en Allemagne sans la référer à toute cette tradition, ce que Karl Löwenstein avait appelé, dès la fin des années 30, la démocratie militante. Cette volonté d'essayer de ne pas rabattre simplement l'idéal démocratique sur le moment électoral, le moment électoral ayant prouvé dans l'Allemagne des années 1930 qu'il n'était pas forcément le meilleur ami de la démocratie. Et c'est pourquoi la question monétaire a été fondamentale dans l'histoire allemande, parce qu'elle a joué dans la mémoire collective un rôle équivalent à ce qu'a été l'irruption du nazisme dans l'ordre politique. Et cet effet équivalent, toute chose gardée, disons, le sentiment d'une catastrophe, d'une certaine façon, a été lié au fait de l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est en effet le constat, à un moment, qu'on a une donnée de la vie économique qui finit par cesser d'appartenir au phénomène que l'on peut appréhender rationnellement, que ce n'est plus de l'ordre de la crise financière. L'hyperinflation allemande, c'est le constat que le désordre monétaire a été le reflet d'une véritable décomposition sociale. À ce niveau, c'est la structure sociale même qui s'est trouvée atteinte par la crise radicale de confiance qu'exprimait la fuite devant la monnaie. À la limite de recouvrement des catégories anthropologiques, économiques et politiques, l'hyperinflation allemande du début des années 1920 a illustré un de ces états limites qui fait comprendre, j'utilise une expression de Mauss, l'anthropologue, que la monnaie peut être considérée comme l'expression de la société comme totalité. Dans ce cas, la monnaie est indissociable de la constitution même du lien social, dont elle exprime tout simplement la qualité. La monnaie, disait encore Mauss, doit être comprise dans ce sens comme une des formes de la pensée collective et même la forme essentielle de la communauté. Elle a donc un contenu directement politique. Appréhendée à cette aune, l'hyperinflation a traduit une sorte de rupture du contrat social, un retour à l'état de nature. Konrad Adenauer, alors maire de Cologne, avait ainsi noté de façon dramatique « S'il n'y a plus de monnaie, alors les gens se battront à mort les uns contre les autres. Il n'y a plus de lien social parce qu'il n'y a plus d'équivalent général, tout simplement. » L'expérience de l'hyperinflation comme décomposition du lien civique et donc destruction de la possibilité même d'un régime démocratique va inciter les Allemands à mettre l'accent sur la dimension sociétale de l'idée démocratique, ainsi que sur ses préconditions structurelles. La question de la stabilité des prix va s'imposer dans ce contexte comme une des conditions essentielles d'une démocratie appréhendée comme forme sociale autant que comme procédure. Et c'est pour cela que la République fédérale, qui n'est légalement formée qu'en 1949, va s'organiser avec l'obsession de conjurer organiquement tout retour au dérèglement et au démon du passé. Dans l'ordre immédiatement institutionnel, c'est le souci primordial d'affirmer la centralité du Reichstag et de mettre le temps long du droit en position de gardien, au-dessus du temps court et versatile de la vie électorale. C'est aussi d'ailleurs les raisons pour lesquelles le droit de résistance a été spécifiquement inclus dans la perspective constitutionnelle allemande, de la même façon que dans un certain nombre des pays qui ont cessé en Europe d'être des dictatures dans les années 1970, Grèce, Espagnole, Portugal. Il y a eu toute une école économique, celle qui a été commentée ici même par Michel Foucault, celle de l'ordolibéralisme qui a alors théorisé ce constitutionnalisme économique exprimé par l'indépendance de la Banque centrale. Cette autonomie, telle qu'elle était instaurée en Allemagne, n'est donc pas simplement négative, marque de la volonté de ce qui serait une soustraction à l'empire du pouvoir politique populaire, dans la perspective implicite de ce qui serait l'affirmation d'un pouvoir expert. L'indépendance se serait inscrite dans ce cas dans une vision que l'on pourrait qualifier d'aristocratique du gouvernement représentatif. Indépendance a au contraire voulu dire en Allemagne établissement d'une relation directe entre la population et l'institution monétaire. Cela signifiait que la Banque centrale entend dégager son action sur des principes politiques fondamentaux, ceux-là même qui donnent sens et forme au contrat social. Et la distance prise avec la politique partisane n'est donc pas dans ce cas le signe d'une entorse faite à la règle démocratique, elle est encore moins la célébration d'un libéralisme étroit. L'indépendance vis-à-vis de l'exécutif est plutôt la marque de l'aspiration à faire vivre une démocratie-société qui serait antérieure en quelque sorte à la démocratie électorale. C'est donc une légitimité des fondements de l'ordre social qui préside à son action. La focalisation de l'attention sur les effets proprement économiques de l'indépendance des banques centrales, en matière de la maîtrise de l'inflation notamment, a tendu à recouvrir cette dimension politique spécifique du cas allemand. Et un certain nombre d'interprétations que l'on pourrait qualifier d'idéologiques de l'ordolibéralisme ont pareillement conduit à masquer l'originalité de cette vision monétaire. La loi réorganisant en 1957 la Banque fédérale lui a demandé d'avoir pour tâche essentielle de sauvegarder la monnaie. Mais sauvegarder la monnaie, au sens de sauvegarder la monnaie en tant que fondement du contrat social. Cela signifie que c'est d'une indépendance vigilance et pas d'une indépendance souveraineté qu'il s'agit dans ce cas. C'est une indépendance active qui n'a rien à voir avec les types d'appels à la formation d'un État neutre qui s'était multiplié justement dans l'entre-deux-guerres pour tenter de faire contrepoids au caractère jugé dissolvant des coalitions partisanes de l'époque. C'est une indépendance démocratique civique qui est au contraire revendiquée et en témoigne à sa façon l'attachement très particulier au paiement en espèces qui caractérise encore aujourd'hui l'Allemagne. Il est environ deux fois supérieur à ce qui existe dans les autres pays. Et vous le savez, ce sont les Allemands qui se sont battus pour qu'il y ait des billets de 500 euros. Tout se passe comme si le billet de banque restait en effet outre-Rhin le symbole du lien vivant entre l'ordre monétaire et la nation, équivalent sur un mode certes mineur mais tenace à une sorte de plébiscite de tous les jours, pour reprendre l'image de Renan. Et c'est l'Allemagne, on le sait, qui a joué le rôle moteur pour donner à la Banque centrale européenne une assez stricte autonomie. Le poids de l'histoire que nous venons brièvement de rappeler permet d'en comprendre les raisons. Mais cette histoire invite aussi à ramener l'indépendance à ce qui en constitue le fondement, la volonté d'instituer une démocratie-société. C'est donc toujours sur ce terrain essentiel qu'il convient de retourner lorsqu'est débattue la question de l'indépendance des banques. C'est à la condition seulement de cette approche que l'impartialité constituante peut être une politique. Pour le dire autrement, l'impartialité ne peut être une politique que si l'indépendance ne devient pas une religion. À la semaine prochaine.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.